RFI et France 24 présentent.
Hello la famille, bienvenue dans Légendes Urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Lorsque tout semble aller contre vous, souvenez-vous que les avions décollent toujours face au vent. » Quelle joie que de recevoir cet artiste et cet être humain à part.
On s'explique plus tard.
On va s'expliquer très vite. Différent tant pour son art que pour son histoire. Dans la musique depuis presque 15 ans, ce rappeur, chanteur, auteur, topliner, compositeur brille par son talent tout en partageant ses lumières et éclairs de génie avec les autres. Plus connu sous son ancien nom, Tortoise, il impressionne par sa capacité à créer 1000 styles musicaux, entre très sombre et très song, pour reprendre ses propos. Et entre les deux, genre, en plus, c'est de la...
relation complexe.
Bah ouais, trouver le juste milieu. D'origine andalouse, il aime à composer avec des sonorités d'ici et d'ailleurs, du moderne au tradi, du futur et du passé. Auteur et topliner émérite, il met son inspiration au service des autres, et pas des moindres. Le fad, Ossé, Kid, Jules, Rimka, PLK, Naza, Niska et j'en passe. Impressionnant. Je dois avouer qu'à l'écoute de tes collabs,
tu fais toujours tout bien.
Bravo. Surproductif et passionné, la musique, c'est ça.
Cocaïne.
Ça.
Plumage.
Ouais. Qu'il produit, consomme et distille de Paris à Bruxelles jusqu'à...
Allez, quand t'es pénétant.
Vous l'aurez compris, très jeune, il plie le game.
24K, 24 ans.
Multiplie les bangers et gère sa carrière d'une main de maître en gardant toujours le contrôle sur son business. Mais malheureusement, même si...
La vie est belle, la vie est dure, cruelle.
Aussi. Un triste jour de janvier 2022, elle stoppe notre hôte dans sa lancée. Et là, c'est... La maladie frappe à sa porte et lui rappelle cette phrase de Confucius. On a deux vies, la seconde commence lorsque l'on se rend compte que l'on n'en a qu'une. Tellement vrai, de toute façon.
Ce que nos cœurs nous disent en fois s'humer.
Alors il se bat pour survivre, pour...
changer tout ce qu'on peut plus changer.
En clamant vaillamment.
J'aime l'impossible.
Ouais, hors de question de se laisser abattre. Et même s'il est en mode...
téléphone batterie faible.
Il gagne le combat. Comme ressuscité, il décide de changer d'identité, de repartir d'un nouveau pied et de scintiller tel un diamant plus que jamais. Depuis,
l'eau a coulé sur les
points. Fort, centré et déterminé, il revient avec un nouveau projet, symbole de sa renaissance et de sa résilience. Il nous fait l'honneur de sa présence dans les studios de Légendes Urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, Carmen Kutza.
Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits.
Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende. Leur légende urbaine.
Faut que je retourne au pays comme papa. Pourquoi j'ai tant d'amour pour lui, mais je lui parle pas. J'ai des cicatrices au cœur qui partent pas. Qui partent pas en bas de chez moi. Quand la caravane passe, c'est les guitares qu'à bois. Trop souvent, je perds le... Je te le dis sur un air de Joule pour éviter de devoir te console. J'ai cœur ouvert que quand le micro l'est aussi. Je dois tout gérer, j'ai pas le cardio de Derossi. Tu veux la passe des mais tu sais pas faire le... Voiture chargée, voyage au bled, j'entendais le bruit des casseroles. À compter les voitures entre les cris de la daronne. C'était trop long mais putain quelle belle époque. Aujourd'hui en vrai je sais pas ce qui manque. Pourtant l'argent c'est pas ce qui manque. Mais je pleure des morts, chez moi c'est Baltimore. Pour des frères j'en peux plus de faire des prières. Je sais pas si c'était mieux hier mais au moins hier t'étais là. Maman a peur vu ce qu'on consomme. La drogue vient une boussole. Je vis à 400 à l'heure, impossible garder. Petit, j'avais la niaque. Les grands me disaient que ça se voyait dans mes yeux. Chambre d'hôpital, j'y pensais quand j'étais seul. Si tu vis la même, au pied de ton lit, confesse-toi. Je m'en suis sorti, mais c'est pas l'heure, confesse-toi. J'ai toujours su qu'il manquait quelque chose. Moi, je fais du cash, mais je fais du mal aussi. Faudrait que j'arrive à reprendre le contrôle. Mais je vis à 200 comme Valentino aussi. En vrai, j'ai pas réussi. J'ai des souvenirs avec toi. Sur un scooter cassé l'été dans le sud de l'Espagne. Des souvenirs de quand on se baladait la nuit. De tes cheveux qui... de tes cheveux qui bouclent sous la pluie. J'ai perdu le. J'suis désolé, là où t'es, j'espère que tu t'en sors. Moi, je gère les tournées, les albums. Tu te rappelles celui qui parle de toi? Enfin de nous, enfin de ce qui reste de ça.
Carmen dans les studios de Légendes Urbaines. Carmen, bienvenue chez toi, comment vas-tu?
Ben ça va, merci déjà, merci beaucoup pour cette intro. Je crois qu'on m'a jamais aussi bien introduit, c'est magnifique.
Ah ben je te remercie.
Ça m'a replongé dans...
Ah ben ouais, parce que je suis remontée loin.
Exactement.
Sur tes sons.
Non, ça tue, ça fait plaisir.
Vraiment, je suis ravie de te recevoir. Tu connais le rituel, on commence par le début. Mmh. T'es née à Grenoble.
Ouais.
Ton papa est musicien,
ouais.
Il est bassiste, d'ailleurs
c'est ça.
Tu es dans un groupe de flamenco.
Exactement.
Tu lui as dédié même un titre, les disques de mon père.
C'est ça.
Ouais. En plus, il bossait à côté, en fait. Finalement, ouais. Il pouvait faire des tournées, puis il a fini par arrêter la musique.
Totalement.
Pour pouvoir être auprès de sa famille, auprès de vous. T'as un petit frère et un grand frère, et ta maman a été secrétaire médicale, puis après elle a travaillé au Muséum de Grenoble.
C'est totalement vrai.
Donc t'as quand même grandi dans un environnement artistique, en fait, avec des parents ouverts,
ouais,
sur la musique.
Vraiment. Moi, mon père, c'est vraiment lui qui mettait l'art et la musique à la maison. Et du coup, c'est vrai que ma culture musicale, elle est totalement différente de la culture de mes amis, parce que par exemple... la chanson française, je ne connais pas du tout.
Ouais.
J'ai quelques micro-bases, mais parfois on me fait écouter des trucs, je ne connais pas, alors que tout le monde connaît et que ça paraît fou. Et ouais, moi, à la maison, bah, c'était le flamenco.
Ouais.
C'était vraiment, bah, pour le coup, les disques de mon père. Et du coup, c'était le flamenco. S'il aimait beaucoup la funk, James Brown et tout.
Mm-hmm.
Donc, il y avait aussi ça. Mais ouais, principalement, c'était le flamenco, la musique latine, on va dire. Et voilà.
Quand t'es petit, tu fais du solfège quand même.
Mm.
Vous écoutiez... Comme tu dis, du flamenco, beaucoup,
ouais,
de rap américain,
ouais,
et t'as fait quand même un peu de musique.
Ouais, j'ai fait du piano pendant je sais plus combien d'années, je pense 3-4 ans, un truc comme ça.
Mm-hmm.
Et j'étais jeune et je faisais du solfège du coup en même temps que le piano. Mais c'est vrai que la musique c'était pas ma passion. À ce moment-là, c'était pas ma passion. Moi, c'était le foot. D'ailleurs, j'avais pas le niveau pour devenir pro, mais j'étais vraiment un passionné de foot. Donc du coup, la musique, c'était plus le délire de mon père, en vrai. Et du coup, il nous a mis mon grand frère à la guitare, moi au piano, pour qu'on ait un peu développé ce truc-là chez nous.
Ouais. Et c'était pas ton délire quand tu le faisais.
Non, j'aimais pas. En plus, le solfège, c'était comme
c'est
l'école
scolaire,
pour moi.
Ouais,
donc en fait, j'aimais pas ça. Et je me forçais à y aller. Carrément, ma mère, l'autre jour, elle m'a ressorti des images où j'avais une représentation de fin d'année de piano et j'étais le seul des 30 élèves qui avait absolument rien appris. J'étais allé en freestyle comme ça, j'ai joué des trucs, c'était un peu nul. Et ouais, je m'en foutais en fait. J'étais pas emballé par ça. Et c'est par la suite. Et pourtant, mon père me disait, tu verras, ça te servira plus tard. Et ça, il me l'a tout le temps dit.
Et pour le coup...
Et voilà, il s'est pas trompé.
Et là, il avait complètement raison.
Il s'est pas trompé, ouais.
Qu'est-ce qui t'a vraiment donné envie? Quel a été le déclencheur pour faire de la musique?
C'est un pote à moi. En fait, c'est plus à l'école. C'était le moment où tout le monde avait envie de commencer à faire quelque chose, etc.
Mm-hmm.
Et moi, j'avais mon pote Yvick, qui est Mister V, lui commençait justement la vidéo, mais c'était vraiment le début. Bon, moi, il s'avère que je suis un très mauvais acteur, donc voilà, c'était pas pour moi. Mais par contre, à ce moment-là, j'écoutais beaucoup, beaucoup de rap. Et j'avais un mec dans ma classe qui, lui, était un mordu de rap français. C'est lui qui m'a fait découvrir Lunatic, il m'a fait découvrir Salif, ben, plein d'artistes.
Ah ouais, des trucs plus à l'ancienne par
exactement,
rapport à ton âge,
exactement.
En fait. Ouais.
Et en fait, ça m'a donné envie de rapper. Et en fait, c'était vraiment au moment où la section d'assaut commence à péter. Mmh. Et donc, il y a ce truc-là où ils remettent un peu en avant les freestyles, un peu comme ça. Ça a matrixé un peu toute ma génération. Et du coup, j'ai commencé comme ça. J'étais avec mon pote, on a commencé à freestyler dans la chambre chez mes parents. Et en fait, moi, je suis quelqu'un, quand j'ai un truc dans la tête, je veux toujours aller au bout. Et en fait, quand je me mets dans un truc, je veux toujours être le meilleur. Et à partir du moment où je me suis lancé dans ça, je me suis dit, ce truc-là, il va m'avoir parce que je ne vais pas réussir à lâcher tant que je n'ai pas montré à tout le monde que je suis le meilleur dans ça.
Tu as eu un moment d'introspection.
Ouais.
Tu as d'abord eu ton petit frère qui est tombé malade.
Ouais.
Lui, au moment où il s'en sort, on t'apprend que tu as un cancer à 25 ans.
Ouais.
Tu parles de cette période, tu parles de ce moment. J'aimerais qu'on écoute t'en parler tout à l'heure.
Ouais.
Chambre 224.
Allez.
Le monde a vu ma gueule en millions de pixels. Obligé de voir tout en XL, en NY comme Dipset, en NY comme Dipset. Chambre 224, je regardais le ciel bleu. Je disais à maman que tout va bien, mais dans son cœur, ciel bleu. Chaque jour d'hosto m'a rendu paranoïaque. Je suis sauvé, mais si elle pleure, faut encore que je la sauve de la noyade. Quand je suis sorti, je me sentais plus abîmé. Même quand j'avais la mort en moi, je passais ma tenue à prier. Chez nous, on crie pas à l'aide. On ferme sa gueule et puis on prie que ça s'arrête. Son médico plus cher que le prix de la barrette. J'suis loin de ma thèse. J'suis dans un brouillard gigantesque. Et personne voit mes feux de détresse. Leur jardin est plus vert que le mien. Chez eux, y'a l'arbre qui pousse. J'peux pas me lever, j'ai peur que le cathéter il bouge et qu'il se bouge. J'parle à Dieu quand l'infirmière se couche. J'lui demande comment va ma nièce et si petit frère a gagné le foot. Est-ce que j'aurai un au revoir avant que tu me laisses, baby? 15 ans que je rappe, j'ai pas attendu Nes Baby. Je matais le clip de Booba et Bill Nes Baby. Je comprenais rien, mais je regardais les fesses, baby. Chambre de 2-4, j'avais pas le droit aux visites. Tu venais en bas de la fenêtre, on se parlait en langage des signes. Je joue à la play et même parfois je dessine. Un frère en 11 me dit, je préfère être enfermé qu'ici. Je suis sous 6 platines, bleu au missile. Je ressemble à rien, je peux même plus plaire au missile. Je suis sous 6 platines, bleu au missile. Le monde avec moi comme si je jouais à domicile. Dehors il fait beau, chez moi il pleut des trombes. Je réfléchis chaque minute, chaque seconde. Je fais des prières, personne qui me répond. J'ai passé l'après-midi à faire le tri, genre Polak il est bon lui, Peli il est bon lui. Lui là c'est un fils de lâche, il m'appelle pour des plans baisse. Tu veux une passe quand on a plein de bitch et ma tante là joue en perche. Je fais pas de la musique de blanc bec, un piano, une voix, comme dans Pancake. J'avais juste un petit mal de dos, comme si je dors sur la banquette. Ils m'ont dit, monsieur, vous avez le cancer. J'ai vu le monde s'arrêter. J'ai mis une semaine avant de dire à ma mère que l'enfant qu'elle allaitait pouvait tout perdre, comme si les impôts regardaient mes fiscalités. Et tant que le match n'est pas perdu, je suis pas disqualifié. J'ai fait le dernier projet, j'avais plus de veuches. Pour ça que je m'en bats les couilles des chiffres autant que je m'en bats les couilles de tes seufs. Franchi aux machines, j'ai même plus mal au cœur. Je suis défoncé, prométhazine, c'est pour les petits joueurs. Maintenant j'entends mieux tous les cris du monde. J'ai écrit à Zola, on se connaît hop, mais j'aime pas te voir au fond. Je suis sous 6 platines, bleu au missile. Je ressemble à rien, je peux même plus plaire au missile. Je suis sous 6 platines, bleu au missile. Monde avec moi comme si je jouais à domicile. 6 platines, bleu au missile. Je ressemble à rien, je peux même plus plaire au missile. Je suis sous 6 platines, bleu au missile. Monde avec moi comme si je jouais à domicile.
Comment tu vis cette époque? C'est la maladie qui te frappe, 25 ans. C'est complètement lunaire, tu dis dans le titre que t'as mal au dos et on te diagnostique un cancer.
C'est exactement ça. Alors en fait, moi j'ai surtout mal vécu celle de mon petit frère, parce que c'est mon petit frère. Donc ça c'était très compliqué, puis c'était le premier de ma famille. On n'a jamais eu de gens qui en ont eu dans mon entourage et tout. Et c'est vrai que quand c'est tombé, c'était compliqué. Après, les médecins nous ont directement rassurés. Il n'était pas à un stade qui était très élevé. Donc, ils nous ont directement rassurés, ça va le faire. Lui, il a failli ne pas faire de chimio carrément et tout. Donc, c'était très compliqué mentalement parce que tu sais que ton petit frère, il dort à l'hôpital. Mais on était quand même confiants. Moi, j'étais à un stade plus avancé. Et donc j'ai plus eu peur au début. Et après, après je me suis dit, quand j'en ai parlé, le plus dur c'était de le dire à mes parents.
C'est ça, parce que tu dis c'est un coup du sort en fait. C'est quoi? Ouais.
En fait, moi, moi j'ai mal au dos. À la base, j'ai mal au dos et pendant. Moi, je suis quelqu'un, je voyage beaucoup, je prends beaucoup le train, etc. Et moi, je me suis toujours dit, je suis pas quelqu'un, je vais beaucoup au médecin, etc. Et j'avais mal au dos et je me suis dit, bah, ça doit être parce que j'ai des mauvaises positions, donc je suis allé voir un kiné.
Studio.
Ouais, voilà, exactement, le studio. À aucun moment, je me suis dit que c'était aussi grave que ça. Et bon, au bout de 2 mois où vraiment j'ai mal au dos, puis ça c'est de pire en pire, carrément à la fin je dormais assis quoi, donc ça commençait à être peu chiant. Quand je dis ça à ma mère, elle me dit bon écoute, tu t'es pris un rendez-vous pour faire un scanner là, comment tu sais ce que t'as? Et en fait je suis allé faire un scanner et ils m'ont dit que j'avais des ganglions partout dans le ventre et ils m'ont dit là il faut que vous allez faire un scanner localisé parce que ça peut être grave. Et je sais pas pourquoi, quand je suis sorti, je me suis dit, je sais que j'ai la même chose que mon petit frère. Je savais pas pourquoi, il y avait aucune, mais je l'ai senti. Je me suis dit, là, j'ai la même chose que mon petit frère. Et j'ai commencé à le dire à mes proches. Je savais même pas la réponse. Et je le savais. Et du coup, je suis allé faire le scanner localisé. Il m'a dit, vous avez la même chose que votre petit frère. Et il y a aucun lien. C'est-à-dire que c'est pas un cancer
qui est génétique. Voilà.
Ils cherchent encore maintenant quel est le rapport. Des fois, ils disent que c'est environnemental, qu'on s'est baladé un jour, il y a eu un nuage.
Radioactif.
Ils savent même pas. Donc, du coup, c'est un peu un mystère. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, le plus dur, c'était de le dire à mes parents parce qu'ils venaient de sortir de la pire étape de leur vie et de la vie de la famille, on va dire. Et en fait, j'allais leur dire, bah, là, on est encore plus dans la merde, c'est encore plus avancé. Et là, cette fois, c'est ton deuxième fils. Et là, j'avoue que c'était très compliqué. Et après, une fois que je l'ai dit, moi, ça m'a enlevé toute ma peur, tout mon poids, en fait. Et après, je suis rentré à l'hôpital, j'étais quand même serein. C'était très compliqué parce que, tu sais, c'est... t'es très fatigué, avec la chimio, c'est très fatigant. Tu manges mal, t'as un goût de métal dans la bouche toute la journée. Pour aller aux toilettes, bah, tu vas 20 fois par jour parce qu'ils te mettent des poches d'eau en même temps que la chimio pour faire travailler tes reins. Donc, t'es toujours branché. Ils te branchent à 5 heures du mat, ils te réveillent les infirmières, ils te débranchent à 22. J'avais même pas de droit aux visites parce que c'était pendant le Covid et c'était trop dangereux. Donc, exactement. Donc, en fait, j'avais même pas avoir aux visites. C'était un peu la galère. Mais en vrai, j'en garde pas un pire souvenir que ça.
Il y a plein de gens dans le monde entier, tu sais, on est suivi par des millions de personnes qui doivent traverser cette période difficile, cette épreuve. Ouais. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Quel conseil tu pourrais donner?
C'est une bonne question parce que. Souvent, je reçois des messages comme ça sur les réseaux parce que les gens savent que je m'en suis sorti, j'en parle dans mes chansons et j'ai jamais eu peur même de montrer mon visage quand j'étais malade, malgré que j'ai une exposition, etc. Et tout le temps, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut vraiment pas lâcher. Il ne faut pas lâcher, il faut y croire. Et même quand les médecins ils sont pessimistes, il faut y croire, il ne faut rien lâcher parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas savoir de quoi est fait demain. Et moi, si toi-même, tu lâches, c'est que c'est la fin. Et du coup, il faut, pour moi, c'est vraiment c'est cliché, hein, mais c'est le mental, s'accrocher. Et après, le plus important pour moi, c'est les amis, la famille. C'est eux qui te permettent de sortir un peu de ce quotidien-là qui est infernal. Et après, je pense que c'est à peu près ça. Hein, c'est à peu près ça.
T'es plus que résilient. C'est vrai que tu as fait peut-être des erreurs après, en sortant de l'hôpital et en étant guéri, mais tu as aussi pris de très bonnes décisions, et notamment être plus que jamais aligné. Tu es passé de Tortose à Carmen, qui est le prénom de ta grand-mère, charismatique, qu'on peut voir dans les clips, qu'on peut entendre dans ton album, en parlant de ça.
Merci beaucoup, mon Mathieu, pour cet album. Un bel hommage à moi et à papy Valentin. Je t'embrasse très fort. Bisous, bisous.
Olé. Olé.
La bosse Carmen.
Ah ouais, vous voulez faire pleurer là. Ouh, c'est monté.
Elle est tellement magnifique.
Ah ouais, je l'adore.
Mais c'est important qu'elle participe, tu vois, et qu'elle t'envoie ses encouragements.
Bah oui, c'est magnifique. Magnifique.
C'est important. Ouais. Quel charisme en plus. Elle a quel âge déjà? T'as quand même plus de 90 ans.
93 ans, ouais. Si je dis pas de bêtises, 93 ou 94, je sais plus, mais.
Incroyable.
Ouais. Ouais.
Et qu'est-ce qu'elle t'a transmis comme valeur, ta grand-mère?
Ma grand-mère, déjà, le fait de toujours être, de jamais se lamenter, de toujours être souriant, c'est elle aussi qui m'a, tu vois, par rapport à l'hôpital et tout, a toujours essayé de montrer que tout va bien, etc. Ça vient d'elle, de jamais lâcher. C'est une battante. Moi, son histoire m'a beaucoup inspiré. Elle a remonté l'Espagne à pied à 6 ans pour fuir la guerre.
Pendant la guerre.
Voilà, c'est ça. Ses parents étaient en prison parce qu'ils étaient contre Franco à ce moment-là. Et c'est des trucs où, obligatoirement, quand elle te raconte cette histoire-là, c'est forcément, ça va jouer sur qui tu es. Et je pense que c'est ça. Après, toujours pareil, le respect. Ma grand-mère, c'était très, très important. Et puis la foi, c'est elle. Voilà, hein, je pense qu'il y a... Et puis l'humour. L'humour, c'est vraiment... C'est la plus grosse déconneuse que je connais.
Elle vanne, elle vous clash.
Tout le temps, elle est toujours en train de dire n'importe quoi, toujours en train de chanter, toujours en train de danser, toujours en train... C'est le rayon de soleil de la famille, on va dire, ma grand-mère.
Carmen, si vous nous voyez, merci. Mm. Muchas gracias.
C'est ça.
Hein,
muchas gracias.
C'est pas
exactement.
Ça, ok, c'est bon. Non, c'est bon, l'espagnol est aléatoire. Notre abarro à la escuela. Donc, voilà. L'espagnol, c'est pas le. Voilà. Mais. Tu cries aussi, là, très fort quand tu mets ta chaise à un mètre de la télé pour regarder des matchs de foot tout seul. Non, il faut qu'on en parle. Une chaise, ouais, tout seul.
Tout le temps.
Tu t'habilles soit en costume, soit tu mets le maillot, ouais, soit tu te fais toi-même ta scénographie.
Ouais.
Et tu es en train de hurler, ouais, comme un putois, ouais, pendant 90 minutes plus prolongation.
Ouais. C'est ma tradition.
Non, il faut qu'on en parle.
C'est ma tradition. Moi, je suis...
c'est pas le truc collégial, non. On est en équipe. Tu es assis, non, à un mètre de la télé, on sait pas pourquoi.
Il faut savoir un truc. Non, moi, je suis comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un truc où il faut pas rigoler, c'est le Real Madrid. Et donc... J'ai mes traditions depuis que je suis tout petit, mais depuis que je suis chez mes parents, c'est pareil. Je ne peux pas être trop loin de la télé. Je dois être en face de la télé. J'ai mon siège. J'ai mon siège. Je suis bien assis devant. Et je regarde le match, j'analyse. Et en fait, il y a même un truc, c'est que je ne veux pas regarder le match avec mes amis. Je ne veux pas. C'est-à-dire que les seules personnes qui sont autorisées, c'est mon père. Parce que mon père, il est pour le Real. Puis lui, il n'aime pas quand ça parle pendant les matchs. Mais moi, je suis pas du tout un gars, je rate les matchs, ou on boit un coup, truc. Pas du tout. Je déteste ça.
Tu hurles, en revanche,
ah ouais,
tout seul.
Ah ouais, parce que je suis vraiment dedans.
Moi, j'ai une personne qui a demandé de faire un choix cornélien, là, tout de suite. Ouais.
Ok.
Ouais. En parlant.
Bonjour Juliette, bonjour Carmen. J'ai un dilemme pour ce dernier. Ok. Soit tu réalises le meilleur album de l'année, carton plein, diamant sur diamant. Tu deviens l'artiste qui dépasse Michael Jackson en termes de vente en France et même dans le monde. Par contre, tu ne peux plus mettre un seul pied au Bernabéu de toute ta vie. Tout fan du Real de Madrid te déteste. Les joueurs, tous, quand ils font la remise du maillot, ils doivent dire « On déteste Carmen ». Ou tu réalises le pire démarrage de l'histoire de la musique internationale. Tu es un mème. Sur TikTok, tout le monde se fout de ta gueule.
C'est sûr.
Et t'es assistant coach d'Ancelotti, ou du moins n'importe quel coach du Real Madrid, à vie. Tu vis Real, tu fais partie intégrante de l'équipe, d'une manière ou d'une autre, à vie,
c'est
du Real Madrid.
Question, mais
t'es un mème, vraiment, ça te regarde dans la rue, dans la rue, c'est la honte de traîner avec toi. C'est-à-dire que moi, je me désolidarise. Tes potes, t'en as plus vraiment. Alors,
ah, ça c'est chaud. Tu vois, à la fin, c'est que ça commence à être chaud. Jusqu'à ce qu'ils disent tes potes, c'est chaud, t'en as plus et tout. J'allais dire, je crois que je préfère être un mec dans le staff du Real qu'un un rappeur reconnu mondialement. Mais là, quand ils commencent à me parler que mes
tout
potes me se
désolidarisent
et tout, non, je crois que là, je ne mettrai plus un pied au Bernabéu. Hein, c'est la vie, hein, c'est comme ça. Hein. Je les raderai les matchs à la maison. Hein.
C'est-à-dire que le Real t'insulte aussi carrément et tout.
Ouais,
hein,
bah écoute.
Une Mister V, franchement, t'es chaud. Hein.
Ouais,
ta question,
c'est très très compliqué.
Merci beaucoup pour la vidéo, par ailleurs. Mais quelle question!
Ouais, vraiment. Non, ouais, j'avoue, c'est compliqué. Mais non, je crois que... Puis même mon album, ce serait une réussite pour beaucoup de monde. C'est pas juste la mienne. C'est la réussite pour beaucoup de monde. Je pense à mon manager, je pense à mes parents qui ont cru en moi. Ça dépasse juste moi. Donc je pense que quand même, je préférais me faire insulter par les madrilènes. Ouais, bah c'est comme ça. Je vivrais dans
tu
la
changerais
peine
de club, peut-être.
Non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible.
Ok, mon ami, il est déjà l'heure de se quitter. Ouais. Je rappelle que ton album « Comment t'aimer sans diamant » est disponible.
Merci.
Tu sais qu'on a un rituel dans l'émission avant de finir, c'est de passer un message universel aux centaines de millions de personnes qui nous suivent dans le monde entier. Quel serait ton message ?
Mon message universel ?
Ouais.
À l'image de mon album, je pense que ça va être un message d'amour. Mm-hmm. Je pense que c'est important de s'aimer tout simplement et de le dire aussi. Ça, c'est très important pour moi. Parce que la vie, elle est pas, elle a un début, elle a une fin. Et du coup, pour moi, bah, je pense que c'est surtout ça. Dites quand vous aimez une personne, c'est très important. Dites-le à vos mamans, dites-le à vos papas. Parce que c'est vrai que moi-même, le premier, j'ai du mal à le dire, par exemple, à mon père. C'est plus compliqué qu'avec ma mère. Mm-hmm. Mais j'ai appris à le faire et je t'aime, papa. Et ça,
yes,
c'est beau.
C'est important. C'est important. Non, mais c'est vrai. C'est très, voilà, très, très important.
Et le monde a besoin d'amour.
Tellement.
Plus que jamais.
Alors là,
plus que jamais.
Exactement. Merci beaucoup, beaucoup, Carmen. C'était un bonheur de te recevoir.
Pareillement.
La famille, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. En attendant, rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour la version longue de l'émission avec Carmen, au cours de laquelle on s'est raconté plein de merveilleuses choses. Et comme à l'habitude, paix, amour, lumière sur vous. One love. One love, Carmen.
One love.
Rentrer sans mère, je me démerde. Elle veut un gosse, je veux J'accélère, qu'on fait Je fais des rêves, la Ventador Jardin d'hiver, comme Salvador. Je la connais par cœur, j'ai ce qu'elle adore. Je dis qu'elle en reste, son compte elle adore. Elle me dit que je suis qu'un enculé. Je perds en autotune, en mêlé. C'est me bouger son cul à la télé. Je suis pas non plus dans la stup, mais je fais des thunes. Argent, vêtements, attitude, le partout, on est en plélélé. Le soleil n'est plus très loin. Tu sais, l'oseille s'en va, s'en vient. Donc j'attends demain. Lélélé. Après le charbon vient l'oseille, après l'oseille vient le sommeil. Vivement qu'on l'est. Après le sommeil revient le soleil. Hey, qu'est-ce que je l'attends, la putain de sa mère? J'ai même pas le time de recoller. Ton cœur, je pose l'amour à la haine. Lélélélélé. Bouchon de gauche dans la brèche. J'avais 15 piges, maman m'a punch. La popo me cherche, son pas l'adresse. Mais qu'est-ce qu'on était beaucoup trop jeune dans la tête. J'regarde tes yeux, je vois demain, je vois le démon, t'es démon guette. Quand je ferme les miens, je vois le ciel, la mer. Elle me dit je t'aime, mais c'est pas comme ceux de ma mère. Peut-être pour ça que je préfère les amours d'un après. Le soleil n'est plus très loin. Tu sais, l'oseille s'en va, ça vient. Donc j'attends demain. Après le charbon vient l'oseille, après l'oseille vient le sommeil. Vivement qu'on lève. Après le sommeil revient le soleil. Hey, qu'est-ce que je l'attends, la putain de sa mère. J'ai même pas le time de recoller ton cœur. Je passe l'amour à la haine. Lélélélélé. La 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 la